bonjour, bienvenue auprès du Seigneur. Mon cher Théophile, ma chère Philomène, chère néophyte, chère nouvelle pousse dans la vie de l'Église, chers frères et sœurs, d'abord, je me joins à vous, chers néophytes, en action de grâce pour votre initiation chrétienne. Est-ce qu'il y a des néophytes parmi nous? Levez la main, dites Dieu. Il y a des, je ne sais pas, des paléophytes, des vieilles pousses. Bon, alors, les vieilles vignes, ça donne quand même du bon vin. Je me joins donc à toi, nouveau baptisé, et je rends grâce pour ton initiation chrétienne, parce que par le bain de la nouvelle naissance, par l'huile sainte, tu es né à la vie même de Dieu. Alors, il me revient, au cours de cette dernière catéchèse mystagogique, de vous présenter, Théophile et Philomène, le mystère de l'action eucharistique. L'action eucharistique, ce qu'on appelle communément la messe. J'ai cru comprendre, je suis allé sur Internet, là, que le titre donné à cette catéchèse, mais il n'est pas de moi, je le jure, c'est « Explique-nous la messe ». Je serais bien malheureux de prétendre, en quelques minutes, vous exposer de manière complète le grand mystère de notre foi. D'ailleurs, peut-on même prétendre expliquer un mystère? J'avais un professeur au grand séminaire qui disait « Les mystères, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, puis nous, les théologiens, on les explique. » On peut sans doute l'approcher, donc, ce mystère, vous me le permettrez, à genoux de préférence. Et puis, de toute manière, j'aurais peur, en fournissant une analyse trop serrée, en disséquant à outrance, de tuer la vie, de tuer le mouvement de ce sacrement sublime que nous avons à contempler. Car si les sacrements, tous les sacrements, sont vie pour nous, ça veut dire qu'ils sont aussi mouvement. Et c'est particulièrement vrai de l'Eucharistie, frères et sœurs. Ce sacrement qui est mouvement nous met en mouvement. Ce sacrement de la route nous met en route sur un chemin de rencontre, de communion avec le Christ, avec le Dieu qu'il révèle, et inséparablement, on va le voir, avec nos frères et nos sœurs aimés de lui. Ce sacrement, nous allons le voir, nous met en présence du ressuscité et nous lance tout autant à sa recherche ailleurs, en dehors même de cet espace où nous nous retrouvons pour le célébrer. Alors, le mouvement de l'Eucharistie ressemble au mouvement vécu par les disciples d'Emmaüs. Vous connaissez cette page célèbre de l'Évangile de Saint-Luc, ce moment absolument sublime. Il faudrait parler chez eux, les disciples d'Emmaüs, ces deux disciples qui faisaient route le soir de Pâques, le soir du premier jour de la semaine, de Jérusalem vers cette ville, peut-être à 2 heures de route. Vous vous rappelez ce qui s'est passé sur le chemin. Cette rencontre qu'ils ont fait au premier soir de la semaine, au soir de Pâques. Vous vous rappelez que les disciples ont reconnu Jésus comment? Lorsqu'il a rompu le pain. Ils ont reconnu non seulement Jésus, ils ont reconnu le Seigneur Jésus, alors qu'ils étaient à table avec lui. Et là, on pourrait penser que tout se joue à table, dans un instant instantané. Ben non, non, justement. Le mouvement de rencontre s'était amorcé sur la route, au carrefour des espoirs déçus de ses disciples, encore dévastés par la mort de leur maître. La rencontre avait déjà commencé. Et c'est en marchant avec eux, en leur ouvrant l'esprit à l'intelligence des Écritures, que le Christ a préparé leur cœur à le reconnaître dans le pain rompu. Comme le disait le pape Jean-Paul II, lorsque les esprits sont éclairés par la parole de Dieu, et lorsque les cœurs sont brûlants, les signes peuvent se mettre à parler. Et c'est ce qui s'est passé à Emmaüs. Et vous vous rappellerez, parlant de mouvement, que les disciples qui ont reconnu ce soir-là le Seigneur, quand ils ont rompu le pain, ne sont pas restés assis. Ils se sont tout de suite, aussitôt, nous dit l'Évangile de Luc, aussitôt, ils se sont mis debout, en route, pour retourner à Jérusalem, pour prendre le chemin, pour retourner voir leurs frères et sœurs et leur partager la bonne nouvelle de la résurrection, leur partager leur joie. Alors voyez-vous, il y a un mouvement. Comme autrefois à Emmaüs, chacune de nos Eucharisties commence sur la route concrète des disciples que le Seigneur Jésus veut rejoindre. Sur ta route, Théophile, sur ta route, Philomène. pense spontanément à un chant d'entrée assez populaire dans mon hometown. On chantait comme ça. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Et les couplets disaient ceci. Voilà que nous apportons, Seigneur, en chaque Eucharistie, nos joies, nos espoirs, nos angoisses, nos tristesses, avec celles de nos contemporains pour te les présenter, Seigneur, pour que tu les transfigures, pour que le Seigneur y jette donc sa lumière et embrase nos cœurs. Comme autrefois, donc, sur le chemin d'Emmaüs, le Seigneur va nous expliquer les Écritures et va nous partager le pain, mouvement de l'Eucharistie. Comme autrefois à Emmaüs, il nous envoie sur les chemins des hommes et des femmes de notre temps pour que nous soyons ses témoins. Et je pense encore ici à un chant d'envoi à la toute fin de la messe. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Mine de rien, Théophile, Philomène, je viens de vous décrire à grands traits le mouvement, la dynamique de ce sacrement, source et sommet de notre vie chrétienne. Il part de la vie et il retourne à la vie, mais au passage, il la transfigure. Il reprend nos forces vives dispersées. Il nous remet en communion avec Dieu. Il nous remet aussi, ce sacrement, en forme d'Église. C'est-à-dire qu'il refait de nous le corps du Christ ressuscité. Il fait de nous aussi comme du pain et du vin destinés aux faims et aux soifs de notre monde. Bon, je vais me permettre un aparté allégorique. C'est permis dans les catéchèses mystagogiques. C'est un aparté allégorique qui a une certaine actualité. Je dirais que la messe, c'est un peu comme la chambre des joueurs au hockey. Nous nous y retrouvons en équipe, nous y retrouvons notre entraîneur et notre capitaine, nous y entendons le plan de match, nous reprenons des forces en partageant non seulement des paroles, mais aussi une nourriture qui peut être physique. Nous y ressoudons notre unité dans le même esprit d'équipe. Et la chambre des joueurs, c'est vital. Et pourtant, comme le diraient les gars de l'antichambre, la vraie game, elle se joue sur la glace de la vie, de tous les jours. Chaque Eucharistie est donc au service de la communion avec Dieu et entre nous. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie, une fois pour toutes. Chaque Eucharistie nourrit la communion en nous mettant en présence du ressuscité. Et là, la question, ça va être, mais oui, mais où est-ce qu'on peut entrevoir, apercevoir cette présence du ressuscité dans l'action eucharistique? La réponse la plus simple, bien sûr, on va se répondre, dans le pain et le vin qu'ils ont transformés, qui sont devenus le corps et le sang du Christ, c'est vrai. Voilà un lieu de présence. On dit, en langage technique, une présence par antonomase, c'est-à-dire par excellence. Mais me croyez-vous si je vous dis qu'il y en a d'autres présences, frères et sœurs, d'autres lieux de présence, d'autres présences mystérieuses même, inscrites, pour ainsi dire, dans le mobilier liturgique des églises. Alors, je m'explique. Quand vous entrez à la messe, Théophile, Philomène, qu'est-ce que vous apercevez? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Là, je simplifie un peu, là, mais je me dis que vous pouvez voir sans doute des tables et des chaises. En fait, vous pouvez apercevoir deux tables. Une table qui a un peu la forme d'un pupitre, mais c'est véritablement une table, parce que l'Écriture sainte y est déposée et le pain de la parole nous y est rompu pour être partagé en nourriture. Voilà un autre lieu de présence du ressuscité. Il y a aussi une autre table qui a souvent la forme d'un autel pour les sacrifices. Ces deux tables sont au centre de notre rassemblement. Et cette table qui a la forme d'un autel pour les sacrifices, c'est elle aussi véritablement une table de famille, une table de fête sur laquelle on a pris soin de mettre une nappe et des chandelles comme au beau jour, comme au grand jour, j'allais dire comme le dimanche, mais c'est précisément cela qu'on fête. le sacrifice unique de Jésus qui nous a ouvert le ciel, sa mort, résurrection, ascension, sa Pâque qui est notre paix définitive. Le sacrifice, puisque c'en est un, nous est représenté, en fait, nous sommes remis en présence de ce sacrifice, en mystère, sacramentellement, actuellement, réellement. Véritable sacrifice, vraiment efficace. On dit propitiatoire parce qu'il nous rapproche de Dieu. Il y a qu'il nous rend Dieu propice. En fait, il rétablit la communication que Dieu a toujours voulu avec nous. Mais aussi sacrifice de louange et d'action de grâce. Car nous sommes dans la joie de ce que Dieu a fait pour nous alors que nous étions encore pécheurs et aveuglés en regard de cet amour immense qu'il nous porte. Là aussi, en cette table, il y a un lieu de présence du Seigneur ressuscité. Alors vous devinez tout le défi de nos Eucharisties, c'est bien d'unir sacrifice et fête. Ne jamais sombrer dans une fête purement humaine qui oublierait le sang versé par amour. Ne jamais sombrer, à l'inverse, dans une gravité telle que nous oublierions l'allégresse des disciples transfigurés de joie à la vue de leur maître. Bref, il s'agit, autour de cette table, de fêter le sacrifice sans sacrifier la fête. Et puis, vous voyez, il y a des chaises ou des bancs, des places pour s'asseoir en tout cas, pour se retrouver coude à coude, même si ça dérange, même si on ne connaît pas toujours bien la personne à côté de nous, notre voisin, notre voisine. Sur ces chaises prises une à une, comme en ces bancs pris tous ensemble, il y a aussi un lieu de présence du Christ ressuscité. Oui, le Christ est présent dans l'assemblée eucharistique que nous formons. Jésus ressuscite dans son corps ecclésial. Et il nous appelle à le reconnaître. Chaque Eucharistie que nous célébrons, est une manifestation de l'Église. On chante « Béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps ». Voyez que même si c'est très personnellement que nous entrons en célébration, chaque Eucharistie appelle à ce que nous soyons un. Je nous regarde là. Une fois 100 personnes, plutôt que 100 fois une personne ou individu isolé. Et c'est pour cela, Théophile, Philomène, qu'on commence toujours nos Eucharisties par une antienne ou un chant qui favorise l'union des cœurs. Mais je dois vous parler d'une chaise bien spéciale, qui est aussi un lieu de la présence du Christ ressuscité. C'est la chaise du président d'assemblée. Si nous étions dans une église bien spéciale, ce serait la chaise de l'évêque, qu'on appelle la cathèdre. La cathèdre. Et qu'on ne retrouve que dans cette église, le plus souvent unique dans chaque diocèse, dans chaque église locale, l'église qu'on appelle justement la cathédrale et qui tire son nom de cette chaise spéciale sur laquelle il n'y a que l'évêque qui a le droit de s'asseoir. Le pape viendrait à Montréal à la cathédrale qu'il n'aurait pas le droit de s'asseoir puisqu'il n'est pas l'évêque de Montréal, mais bien l'évêque de Rome. Cette chaise cathédrale, si vous allez à la cathédrale de Montréal, vous la verrez. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle est le signe du ministère pastoral de l'évêque. Elle est le signe également de son magistère, c'est-à-dire de l'autorité de son enseignement doctrinal. Alors ici, ce n'est pas spécifiquement une cathèdre, mais il y a quand même un siège prévu pour le prêtre qui va présider à l'action commune de la liturgie. Et vous remarquez ceci, elle est placée comme en vis-à-vis de l'assemblée. Les actions, les paroles, le ministère du prêtre nous rappellent que c'est en fait un autre qui préside, le Christ lui-même, dont le prêtre, en la personne du Christ, est l'instrument. Le Christ, donc, qui s'associe son corps dans la célébration de ce grand mystère. Oui, nous sommes, et c'est un mot un peu galvaudé, mais nous sommes tous des célébrants, même si notre rôle n'est pas le même dans la chorégraphie liturgique. L'Eucharistie, ce n'est pas simplement un rituel ou un spectacle auquel nous assistons, mais c'est bien un sacrement auquel nous participons. C'est toute l'action liturgique qui est sacramentelle. C'est un sacrement, l'Eucharistie, en forme de rassemblement mémorial, en forme de repas sacrificiel. Et si le prêtre est souvent seul à élever la voix en prière, tous les membres de l'Assemblée prient en même temps dans leur cœur, au même instant. C'est pourquoi vous entendez le prêtre dire « Prions le Seigneur » et non pas « Hey, écoutez pendant que je prie le Seigneur ». Et quand il dit « Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence », ce « nous-là », c'est le « nous » de l'Assemblée. C'est le « nous » de notre corps ecclésial, et non pas un « nous » de majesté qui ne convient absolument pas au ministère humble qu'il accomplit. Pourtant, le prêtre prête aussi sa voix à la manifestation du Christ, à son initiative. Vous l'entendez dire au début de la messe, et plusieurs fois par la suite, « Le Seigneur soit avec vous ». Et vous répondez « Et avec votre esprit ». Dans ce dialogue, on peut reconnaître l'initiative du Seigneur qui convoque ultimement, c'est lui qui appelle le peuple à devenir Église, assemblée par un autre. Et si on dit bien « avec votre esprit » et non pas simplement « avec toi aussi », c'est bien parce qu'on reconnaît que le ministre ordonné a reçu un sacrement spécial, le sacrement de l'ordre, qui le met en situation de vis-à-vis pour ordonner la fraternité. Alors j'insiste sur cette dimension dialogale qui fait partie intégrante du sacrement de l'Eucharistie, de l'action eucharistique. Elle nous redit que l'Eucharistie est une action d'Église. Et pas seulement une action dans l'Église ou une action devant l'Église, mais une action ecclésiée, une action d'Église. Les chrétiens d'Orient, avec leur liturgie, pourraient nous en apprendre encore plus large sur cette organicité dialogale liturgique. La messe n'est pas faite pour être célébrée en solo par le prêtre. Il n'y a aucune messe dont on devrait dire « Ah, c'est la messe du prêtre ». Elle était belle, votre messe, monsieur le curé. Non, c'est pas la mienne, c'est la nôtre. Bien sûr, si le prêtre se retrouve seul, il a depuis quelques années à peine. Dans toute l'histoire de l'Église, ça ne fait pas 60 ans que le prêtre a le droit de célébrer une messe absolument seul. C'est seulement depuis le Concile Vatican II. De célébrer en solitaire, donc, mais pour des motifs très sérieux. Bien sûr, chaque messe est célébrée en présence de Dieu et de ses anges et de ses saints. Bien sûr, la dimension sociale de chaque messe est assurée par le fait qu'il y a des offrands, même s'ils ne sont pas là, qui commanditent la messe et des intentions particulières pour lesquelles nous la célébrons. Mais la structure de la messe, en forme de dialogue, nous rappelle qu'il est toujours souhaitable de vivre la messe en assemblée. C'est tellement vrai, ça, qu'au Moyen Âge, il y a certains théologiens qui disaient qu'il faut au moins 3 personnes pour célébrer la messe. Pas 2, pas 1, 3. Pourquoi? Parce que le prêtre, au début de la messe, il dit « Le Seigneur soit avec vous ». Il ne dit pas « Le Seigneur soit avec toi ». Alors, vous voyez que quand on est attentif à la liturgie, il y a des détails comme ça qui nous disent qu'elle peut nous révéler quelque chose de très précieux sur notre vie en Église. Mon professeur d'ecclésiologie disait tout le temps, la liturgie, c'est la didascalie de l'Église. C'est-à-dire, c'est l'enseignement qu'on reçoit sur l'Église, c'est la liturgie qui nous le donne. Telle est notre manière de célébrer, telle est notre manière de vivre la vie chrétienne. Alors, je suis bien malheureux, Philomène, Théophile, alors que le temps file, je suis bien malheureux de ne pas pouvoir vous livrer tout ce qu'il y aurait à considérer de la richesse qui se trouve sur la première table. Parce qu'après les rites d'accueil, après la prière d'ouverture, nous nous assoyons pour mieux accueillir cette parole. Sachez seulement donc, à ce stade-ci, que la parole, ce n'est pas le livre, mais bien d'abord et avant tout, le Christ lui-même. Ce que nous retrouvons dans l'Écriture, c'est lui. Lui, annoncé dans les Écritures du Premier Testament, chez Moïse, chez les prophètes, les écrits de sagesse. C'est lui qui est là, déjà, annoncé en figure. Et c'est lui aussi que nous retrouvons dans le récit des premiers témoins, de ceux qui ont marché avec lui, mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, de ceux qui ont recueilli ses paroles et qui nous les ont transmises. Et quand le prêtre ou le diacre lève l'évangéliaire en disant « Acclamons la parole de Dieu », il est bien juste et bon de répondre « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Car c'est bien lui la parole que nous acclamons. C'est lui le Verbe fait chair à qui vont nous louer. Après l'homélie, vous le savez, un petit mot grec qui veut dire entretien familier, pas cours de théologie, pas de dissertation savante, entretien familier que le ministre, évêque, prêtre ou diacre accomplit pour favoriser l'appropriation des Écritures et leur incarnation dans nos vies. Après le credo que nous redisons le dimanche comme en réponse de foi à la parole faite chair et au Dieu qu'elle révèle, après les prières que nous inspire l'Écriture pour le monde et pour l'Église, là, on doit espérer que, comme à Emmaüs, nos cœurs soient assez brûlants pour dresser la table de l'Eucharistie. Des fois, je me dis, si nos cœurs ne sont pas assez brûlants, il faudrait rester dans la parole et résister à passer tout de suite à l'Eucharistie. C'est un peu iconoclaste, mais je le dis pareil. Nous apportons donc sur cette table, la deuxième table, nous apportons du pain et du vin. Ces aliments, mes frères, mes sœurs, ce sont des symboles puissants. Donc, permettez-moi de dire de manière un peu familière que ce sont des oignons symboliques, à plusieurs couches, à plusieurs pelures de sens. Et si vous voulez, on va en ouvrir quelques-unes, ne prétendant pas justement aller au bout de l'oignon, mais simplement vous en donner quelques-unes. Première pelure, première couche de sens pour le pain et le vin, vous le savez bien, c'est que le pain et le vin nous remettent en présence d'une mémoire très ancienne. De la mémoire très ancienne de l'expérience des enfants d'Israël, de leur libération d'Égypte, de la Pâque du Seigneur, de la Pâque juive, du passage de la mer Rouge, de la sortie d'Égypte. La nuit de leur libération, sur l'ordre du Seigneur, ils ont mangé, les enfants d'Israël, du pain sans levain, comme le nôtre. Ce pain n'a pas de levain, que de la farine et de l'eau. Du pain qui n'aurait de toute manière pas pu lever, car il fallait partir, quitter le pays en toute hâte. Quitter la servitude, se débarrasser de toute manière du vieux levain, de ce qui appartient au passé, de ce qui ne peut que périr et pourrir, pour en espérer un nouveau en terre promise. Le pain. Le vin, quant à lui, dans l'expérience de ses enfants d'Israël, de quoi est-il le symbole? Il est le symbole de cette terre promise par Dieu à son peuple, la vigne plantée, le fruit qu'on récolte. C'est dans la Bible le signe de l'accomplissement de la promesse de paix et de bonheur que Dieu a faite à son peuple. C'est là, dans le pain et le vin, une première couche de sens à constamment redécouvrir. À redécouvrir donc l'enracinement sémitique, judaïque, israélite de notre Eucharistie. Le pain et le vin, deuxième couche de sens, nous remettent bien sûr en présence de ce que Jésus a fait la veille de sa mort. Il a pris le pain, il a pris la coupe de vin. Pas une coupe, on le verra, mais la coupe. Précisément, dans le contexte d'un repas pascal. Jésus a pris du pain, c'est dans sa texture même un peu le signe de son corps, de la consistance du corps, mais précisément, il l'a rompu de sa main en signe de sa mort violente. L'Eucharistie ne nous permet pas, parce que l'Eucharistie n'est pas une pièce de théâtre, de rompre le pain au moment même où les paroles de la consécration sont dites. Vous l'aurez remarqué. C'est pas à ce moment-là, quand le prêtre dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps », qu'il rompt le pain, non, c'est plus tard. Il faudrait peut-être quand même se dire que lorsque Jésus l'a fait, il l'a dit en même temps « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Voyez ce qui arrive à mon corps livré pour vous. Mon corps donné. » Ma vie donnée. Il l'a rompu de sa main et il en fait le pain d'un autre exode. La manne d'une nouvelle traversée vers la terre promise du royaume. Le sacrement de la libération intégrale de l'humanité. Non pas seulement donc libération politique ou économique ou sociale, comme les Hébreux avaient pu le vivre en sortant d'Égypte, mais libération profonde, libération de la mort et du péché, de tout ce qui nous sépare de Dieu, de tout ce qui nous isole les uns par rapport aux autres. Le pain que Jésus a pris. Il y aurait mille autres choses à dire, vous le savez bien. Et Jésus a pris le vin également. Dans cette coupe unique que le président d'Assemblée avait devant lui, alors qu'il y en avait d'autres coupes sur la table, il n'a pas pris n'importe laquelle. La coupe de bénédiction. La coupe qui annonce l'avenir. La coupe qu'on levait en disant « l'année prochaine à Jérusalem ». Jésus a pris le vin qui a la texture du sang versé, comme le sang des sacrifices anciens, mais c'est une fois pour toutes qu'il le fait pour mettre fin à tous les sacrifices sanglants. Car ce que Dieu préfère, nous a-t-il rappelé, c'est la miséricorde et non les sacrifices. Deuxième couche de sens, donc. Voyez, une première qui nous ramène à la Pâque des Juifs, la deuxième qui nous ramène au jeudi ou à la scène du Seigneur. Mais il y en a d'autres couches dans l'oignon. Je ne sais pas si c'est des couches plus profondes ou plus superficielles, je vous en propose deux autres. Vous entendrez peut-être le prêtre dire, au moment où il prépare les offrandes, « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. » Vous l'entendrez peut-être dire, « Nous te présentons, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. » Oui, parce que tout vient de Dieu, mais en même temps, il est le fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Le pain que nous partageons n'est-il pas le symbole de notre travail? Ne dit-on pas que nous gagnons notre pain à la sueur de notre front? Le vin que nous partageons, que nous buvons, n'est-il pas le symbole de toutes nos fêtes? Avec le pain et le vin, n'est-ce pas en même temps toute l'activité humaine que nous offrons à Dieu? Troisième couche de sens. Et puis encore une qui a rapport, même je ne suis pas un expert, à la façon de fabriquer le pain et le vin. Comment est-ce qu'on fait du pain, frères et sœurs? On prend de la farine, on prend de l'eau, c'est tout ce qu'il y a de besoin pour ce pain-là, rien d'autre. Oui, mais la farine, comment on fait ça? On prend des grains de blé, un seul grain de blé, non plusieurs grains de blé qu'on va broyer, moudre ensemble pour créer cette farine, et avec l'eau qu'on va mélanger, la mettre au feu, la faire cuire pour que ça devienne un seul pain. Comme nous sommes appelés à devenir un seul corps. Nous sommes, dit une très vieille prière d'action de grâce, dans la Didaké, un texte syrien de l'année 85-90 peut-être, qui dit « Comme les grains de blé sur la colline sont rassemblés, daigne rassembler, Seigneur, tes enfants. » Ces aliments sont des aliments qui sont faits d'unité. Le pain est pétri d'unité. Il est symboliquement un aliment d'unité. Le vin, même chose. Comment est-ce qu'on fait du vin? Plusieurs grains de raisin broyés ensemble, fermentés pour devenir un seul vin. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes des raisins appelés à devenir ensemble un vin capiteux, délicieux pour le monde. Et voyez que les aliments qui sont faits d'unité veulent nourrir l'unité. On dirait en langage thomiste que l'effet principal de ce sacrement, c'est bien la communion, c'est bien l'unité. L'unité non seulement individuelle avec Dieu, il ne faut jamais perdre les deux ensemble, inséparablement, unité avec Dieu et entre nous, inséparablement. Car idéalement, cher Théophile, cher Philomène, il serait préférable dans nos Eucharisties qu'il y ait un seul pain rompu et partagé. Ce n'est pas toujours possible, mais il serait préférable qu'il y ait un seul pain partagé et qu'il n'y ait qu'une coupe également offerte à boire pour respecter les paroles de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10. Il faudrait peut-être, à défaut d'avoir un seul pain, que les hosties que nous fabriquons prennent la forme d'un morceau de puzzle pour bien signifier que nous devons toujours communier en discernant le corps du Christ, présent non seulement sous les apparences du pain, mais aussi présent dans le frère et le sœur qui communient en même temps à nos côtés. Oui, le temps va me manquer, mon frère, ma sœur. Pour vous parler de cette grande prière d'action de grâce, il faudrait la disséquer, vous devinez, cette grande prière d'action de grâce que nous adressons à Dieu le Père, par, pour son Fils, par lui, avec lui et en lui, dans l'Esprit. Elle est tellement importante, cette grande prière eucharistique, que vous le savez, on commence par trois interpellations. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vous voyez que c'est tellement important qu'il y a d'abord le ministre ordonné qui appelle le peuple à se reconstituer en corps du Christ. élevons notre cœur, c'est-à-dire, oui, détournons-le de ce qui pourrait faire obstacle ou de ce qui pourrait nous divertir. Alors non, nous le convertissons au Seigneur, notre cœur, nous le tournons vers lui, parce que là, voilà, il y a le plus important qui va se produire. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, cela est juste et bon, ou cela est digne et juste, parce qu'il n'y a rien de plus important que cela. Voilà où nous puisons le sens de notre vie. Notre vie même doit être une action de grâce à Dieu. Alors, dans cette grande prière, qu'est-ce que nous y retrouvons? Ben, nous y retrouvons les merveilles de Dieu, de sa création, et la merveille encore plus grande de notre recréation, c'est-à-dire de notre rédemption dans le Christ. Dans cette grande prière, nous faisons mémoire de la fidélité du Père qui a envoyé son Fils lorsque les temps furent accomplis et qui nous a envoyé l'Esprit qui poursuit son œuvre de sanctification en nous et dans le monde. Et c'est cet Esprit que nous demandons au Père dans la grande prière, avant même de rappeler les paroles de Jésus. Nous demandons au Père d'envoyer cet Esprit, on appelle ça l'épiclèse, pour que Dieu lui-même, et non pas un simple pouvoir humain, transforme le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et du Christ. Mais vous aurez remarqué, le corps et le sang du Christ, vous aurez remarqué, frères et sœurs, qu'il n'y a pas qu'une épiclèse, mais qu'il y en a deux prières où nous demandons au Père d'envoyer l'Esprit. Nous demandons aussi que l'Esprit soit envoyé sur nous pour que nous devenions le corps du Christ et le sang du Christ. Inséparablement, nous sommes appelés à devenir ce que nous mangeons et à le devenir ensemble. N'oublions pas dans cette grande prière de prier en communion avec toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dès le début de cette grande prière, voilà déjà, dans une formule brève, saisissante, quelque peu infidèle au latin, qui va probablement donc disparaître sous la plume des nouveaux rédacteurs de, voilà, du missel à venir, mais l'objectif central et génial de notre prière. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pas simplement pour le bien de l'Église, mais pour le salut du monde. Parce que le bien de l'Église n'est pas son bien à elle, c'est le bien de Dieu qui est le salut du monde. Je voudrais tout de même prendre le temps de vous souligner, Théophile et Philomène, combien cette grande prière est tout aussi dialogale et non seulement l'affaire du prêtre. Il y a des fois des gens comme ça qui tombent, mettent ça à off en disant « Ah, là le prêtre est parti, là, on va faire d'autres choses pendant ce temps-là. » Elle a commencé, vous l'avez vu, par trois interpellations. Elle comprend des acclamations qui appartiennent à l'Assemblée. Le Sanctus, Saint, 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 c'est l'Assemblée qui doit le chanter. L'anamnèse et surtout le grand Amen final. Ah, souvenez-vous, frères et sœurs, quand vous répondez « Amen », souvenez-vous que ce mot hébreu ne veut pas simplement dire « ainsi soit-il ». Mauvaise traduction. Il vient d'un mot hébreu, je ne suis pas très hébraïsant, peut-être que sœur Cécile va me corriger, mais qui évoque la solidité du rocher. Il faudrait donc le traduire en québécois par « maison ». Ou encore en langage plus jeune, « solide, man, solide ». En tout cas, nous devrions l'exprimer avec conviction, car il vient ratifier tout ce que le président a prononcé en notre nom à tous. À cet égard, je me permets une petite anecdote. Je pense que j'ai le temps. La première fois que moi j'ai entendu un véritable « Amen », j'avais 20 ans, et c'était en Haïti. J'étais habitué au « Amen québécois ». Amen. En participant, bon, j'ai vécu quelques mois en Haïti, en participant aux assemblées liturgiques, j'ai découvert Amen. Chez mes frères et sœurs, surtout chez mes sœurs haïtiennes, qui, pendant l'homélie du prêtre, se levaient pour dire Amen! La première fois, ça décoiffe. Nous devrions avoir cette conviction, je suis sérieux, de répondre « Amen » avec conviction. On n'est pas obligé de le crier, mais avec une conviction qui dit bien ce grand « Amen ». Il faut relire Saint Justin dans sa première apologie, nous parler de cet « Amen » qui appartient à « Amen ». Il manque peut-être le petit éventail, là, mais bon. Une fois cette grande prière achevée, frères et sœurs, nous pouvons avancer vers la communion eucharistique. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette communion-là, il ne s'agit pas ici d'un moment de tête-à-tête intimiste avec le Seigneur. Bien sûr, il y a intimité, mais encore une fois, dans la communion inséparable avec nos frères et sœurs. Jamais l'un sans l'autre. Et j'en veux pour preuve les rites de communion. Et ils sont nombreux. Les rites de communion, c'est d'abord le Notre Père. Évidemment, je n'ai pas le temps de, mon Dieu, faire une catéchèse sur le Notre Père. Pas le temps d'en dire plus, mais déjà, vous voyez bien que c'est une prière qui se dit au « nous ». Nous adressons ensemble notre prière à Dieu le Père. La communion commence dans la prière au Père, ensemble. Et puis ensuite, il y a l'échange de paix. Et pas n'importe quel geste. Ce n'est pas un geste superflu, ce n'est pas un geste facultatif. Il signifie bien notre engagement à vivre dans la fraternité, à donner ensemble le témoignage de l'amour mutuel entre saints. Nous nous saluons d'un saint baiser, nous dit saint Paul. Pouvoir donner à l'extérieur des murs de l'Église ce témoignage. Voyez comme ils s'aiment. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, disait le Christ. Ce baiser de paix, cet échange de paix, ce salut nous engage aussi à transporter à l'extérieur de l'enceinte de nos temples ce souhait de paix pour que nous devenions, pour d'autres qui ne sont peut-être pas chrétiens, des artisans de paix. On nous dira, oui, mais je ne connais pas nécessairement la personne à côté de moi. Pas besoin de connaître son petit nom. Sache que c'est ton frère, ta sœur. Oui, mais c'est gênant. Pas plus que d'annoncer Jésus-Christ dans ton quartier, à ton boulot, dans tes réseaux d'amis ou dans ta famille. Et c'est bien ta responsabilité de le faire comme chrétien. Oui, mais il y a des microbes. Un sourire ou une parole peuvent suffire. Enfin, la communion au corps du Christ et au sang du Christ peuvent venir nourrir en nous cette communion déjà activée, comme autrefois pour Emmaüs, elle avait bien commencé depuis le début de l'action liturgique, depuis le début même de l'action sacramentelle. Il y aurait tant à dire, cher Théophile, cher Philomène, mais le temps me manque, le mouvement de l'Eucharistie arrive à son accomplissement. Nous devenons ce que nous mangeons. Mais alors, si c'est bien vrai, si nous sommes devenus ce que nous avons mangé, il faut partir. Comme les disciples d'Emmaüs, il faut reprendre la route. L'Eucharistie n'est pas un lieu si confortable qu'on puisse prétendre y rester pour toujours. Le monde nous appelle. On peut bien sûr prolonger l'action de grâce déjà bien réalisée par la grande prière. L'action de grâce ne commence pas après. Elle est déjà commencée, on peut la prolonger. On peut aussi prolonger le cœur à cœur par l'adoration eucharistique, qui devrait toujours être vécue en lien avec la célébration de l'Eucharistie, pour que le mouvement centrifuge de l'Eucharistie nous apparaisse plus évidemment. Mais voilà, il faut partir. L'Eucharistie est un lieu d'accueil et d'envoi. La dernière partie de la messe, le dernier mouvement de la symphonie, est aussi le plus court. Et c'est celle qui donne son nom à la messe, hein. Ite missa est. On peut traduire littéralement « Allez, la messe est dite » ou « La messe est faite ». Mais aussi, on peut traduire de manière peut-être un peu plus subversive « Allez, la mission commence. Allez, voici votre mission. » Voilà trop brièvement quelques aspects de ce mystère si grand, si profond de l'action eucharistique. J'espère, chers Théo et Philo, que vous y participerez souvent pour y entrer encore plus avant, car c'est en rendant grâce qu'on entre en grâce. Amen. Amen.